Bonjour, nous voilà de retour dans la chronique Nature sur la Rame et en compagnie du Parc National des Écrins. Et aujourd'hui, c'est en compagnie de Michel Bouche qui nous vient donc de la maison du parc de Châteauroux. Michel, bonjour.
Bonjour.
Michel Bouche, vous êtes chargé du suivi du patrimoine dans le parc.
Voilà, je m'occupe plus particulièrement des protocoles scientifiques et de tout ce qui est gestion de l'espace.
Alors dans l'espace, on va dire dans l'espace alpin et dans l'espace du parc national des Écrins, il y a notamment des bouquetins. Alors les bouquetins, on en a déjà parlé l'année dernière un petit peu, mais on a appris surtout à cette occasion, en compagnie de Gilles Farny, que vous aviez lancé un programme de suivi du bouquetin. Donc on va parler de ce programme aujourd'hui. Tout d'abord, remettez-nous un petit peu dans le contexte, le bouquetin, les populations dans les Hautes-Alpes, c'est comment aujourd'hui ?
Alors le bouquetin, je le rappelle, c'est une espèce qui a failli disparaître de l'arc alpin et qui n'a subsisté qu'à partir d'un petit noyau de population dans le Grand Paradis qui a grossi grâce à sa protection dès le début du XXe siècle. Et ensuite, il y a eu des réintroductions dans un peu tous les massifs alpins. Donc on est passé de quelques centaines d'individus à environ 30 000 aujourd'hui. Ce qui peut paraître beaucoup, mais qui, à l'échelle de l'arc alpin, finalement, est assez peu. Pour exemple, le massif des Écrins n'abrite guère plus de 600 bouquetins.
Ah oui, ce qui est peu, alors.
Finalement, ce qui est très peu, si on compare à des populations de chamois, où on peut en compter à peu près 15 000 sur le massif des Écrins.
Une population très minoritaire, donc, d'où les raisons pour lesquelles vous la suivez en particulier. Elle reste précaire, cette population, malgré...
Alors, elle reste précaire, et c'est vrai qu'elle nous donnait quelques inquiétudes parce qu'elle avait une croissance très lente, ce qui n'est pas forcément anormal chez le bouquetin. Mais donc, on voulait vérifier l'état sanitaire de cette population, c'est-à-dire savoir s'il y avait des maladies qui se développaient chez ces animaux, et éventuellement lesquelles. Donc ça, c'est le premier objectif du programme. Le deuxième objectif, c'est qu'on voulait avoir des précisions sur les déplacements de ces animaux. Alors pour savoir déjà si les trois populations issues des trois réintroductions successives étaient maintenant en connexion, est-ce qu'il y avait des échanges entre elles? Et puis aussi, est-ce qu'il y avait des lieux particuliers à surveiller et à protéger, comme des zones de mise bas ou des corridors de déplacement ou des zones d'hivernage? Donc voilà, maintenant ce programme, qui, je le rappelle, est basé sur le fait qu'on équipe les animaux de colliers GPS, et à partir donc des données qui nous renvoient. Donc ça permet de suivre à la fois les déplacements des animaux et de récupérer les animaux en cas de mortalité.
Alors, à ce jour, les premiers résultats, vous commencez à engranger les premiers résultats. Concernant l'état sanitaire, qu'est-ce que vous avez appris ?
Alors, on a eu les résultats donc des analyses effectuées sur les prélèvements qui ont été faits au moment des captures. On a capturé une quarantaine d'animaux, dont actuellement 22 sont équipés de colliers fonctionnels. Bon, on s'est aperçu que... globalement, l'état sanitaire était plutôt bon, donc on a fait des sérologies. Il y a quelques maladies quand même qui ressortent un petit peu. En tout cas, au moins, les bouquetins ont été en contact avec un certain nombre de germes, ça on le sait. Et puis, grâce au collier, on a réussi cet hiver à récupérer un animal dans un très bon état de conservation.
Donc, mort, suppose, donc.
Malheureusement mort, oui. Et donc, on a pu faire une autopsie dans de très bonnes conditions. Et on a là mis en évidence la maladie caséeuse, qu'on appelle aussi la maladie des abcès. Une maladie que les éleveurs locaux connaissent bien, car elle est très présente chez les ovins.
On a des moyens pour éradiquer cette maladie sur les faunes sauvages ?
On n'a pas forcément de moyens de l'éradiquer. Je rappellerai que la pathologie, c'est aussi une des composantes de la dynamique de population chez les espèces sauvages. Mais ce qu'on a le moyen de faire, c'est d'éviter le passage de ces maladies de la faune domestique à la faune sauvage et éventuellement de la faune sauvage à la faune domestique, ce qui serait beaucoup plus embêtant.
Pour ce qui est du suivi des déplacements, alors on va rappeler qu'il y a eu trois réintroductions, c'était dès 1959 dans les Cerces, en 89 dans le Valbonnet et plus récemment, 94-95, dans le Champsaur. Est-ce qu'ils ont réussi à faire connaissance, ces trois populations?
Alors, ils font très probablement connaissance. On n'a pas réussi encore à le mettre en évidence avec les animaux marqués et équipés de colliers. Mais quand on voit les déplacements qu'ils sont capables de faire, plusieurs dizaines de kilomètres à vol d'oiseau en l'espace de quelques jours, en zone de montagne et même en hiver, on ne doute pas un instant que ces contacts aient déjà eu lieu. Hein, pour donner quelques exemples, on a une femelle qui passe l'hiver dans la vallée de Champoléon et qui va mettre bas et élever ses jeunes dans l'Oisan. Hein, on a aussi un mâle qui a fait l'année dernière, pendant l'été dernier, trois allers-retours entre la Valouise et le Val-Gaudemare, et ceci en quelques jours. Donc très probablement, ces populations sont actuellement en connexion.
Donc ça veut dire qu'on n'a pas de souci à se faire pour l'implantation maintenant de cette population, même si elle est encore faible?
Alors, les résultats qu'on a obtenus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut encore qu'on soit patient et je pense que d'ici quelques années, on verra de nouveau des bouquetins dans l'embrunet.
Eh bien voilà une bonne nouvelle. Merci Michel Bouche.
Merci, au revoir.